Nous allons encore partir en balade dans cette émission. Un jour, un livre, un auteur. On était parti dans des loin la semaine dernière. On était.
On va marcher aujourd'hui.
Ouais. Mais là, on revient dans nos Pyrénées.
Oui, mais on va marcher par contre. Là.
On va marcher.
Ouais.
Bon, mettez alors, les bonnes chaussures.
Mettez les bonnes chaussures, écoutez, Philippe Cybercaz. Mettez un peu de crème sur les pieds pour pas avoir d'ampoule.
Je vous écoute et puis je reviens après. Alors, Allez, un jour, un livre, un auteur. Bonjour quand même, Philippe Denis.
Bonjour,
Philippe
Cybercaz.
Bonjour,
Philippe.
Alors, c'est bien parce qu'on va marcher. On va marcher, mais on aura après toutes les vacances pour récupérer, puisque on va dire que c'est la dernière émission de la saison. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier, mais ça, on le fera à la conclusion. Une année de plus, de septembre à juin, comme les enfants. Voilà, mais ça, vous, Diego a l'habitude qui a été enseignant.
Eh oui, une année de plus sans moins.
Voilà, exactement.
Allez, je vous laisse avec votre invité, puisque on l'a dit, on part en randonnée.
Alors, on part en randonnée, voilà, dans les Pyrénées. Autant à la découverte d'ailleurs qu'à la rencontre de villages fantômes, ces villages qui ont un jour été laissés à l'abandon, comme on ferme une maison pour ne plus jamais y revenir. Un auteur landais a justement eu l'idée géniale de rendre visite à ces villages fantômes et d'en faire un petit livre passionnant. Allez, on prend notre sac à dos, nos chaussures de marche et on part découvrir ces endroits magiques dans ce très bel ouvrage, 15 villages fantômes pyrénéens, publié aux éditions du Mont Hélios. Gilles Kerloc, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous m'entendez, Gilles Kerloc?
Oui, je vous entends.
Ah,
vous
d'accord, voilà.
Oui.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Gilles Kerloc. Donc, 15 villages fantômes pyrénéens, publiés aux éditions du Mont Hélios. Je vais lire la quatrième de couverture pendant que Philippe Cybercaz se met de la crème solaire sur le visage avant d'entamer la randonnée. Voilà, et on revient après pour les questions. Alors, tout au long de la chaîne des Pyrénées, côté espagnol et plus inattendu, côté français, de nombreux villages ont été abandonnés de gré ou souvent de force par leurs habitants. Le temps s'y est figé. Et la nature fait son œuvre. L'auteur qui a choisi 15 d'entre eux, répartis sur l'ensemble de la chaîne, nous raconte leur histoire et propose une déambulation dans ces endroits où l'homme a autrefois vécu. Dans ces ruines, on retrouve de nombreux témoignages de leurs activités d'alors, leur quotidien, leur environnement. Souvent en total abandon, certains lieux font parfois l'objet de programmes de restauration pour sauver des édifices religieux et autres bâtiments. Gilles Kerloc, quel a été le déclic qui vous a amené à visiter ces 15 villages pyrénéens répartis entre l'Espagne et la France et d'en faire un livre?
Alors, déclic, en fait, j'ai toujours adoré visiter les lieux délaissés, les lieux abandonnés, autour de moi, dans les Landes et un peu plus loin. Et c'était souvent des lieux, ben voilà, des grands châteaux, des maisons, des moulins, des hôtels. C'est quelque chose que j'aime bien voir, et voir un petit peu ce que la nature en a fait. C'est-à-dire que j'aime bien partir sur les pas, effectivement, de lieux qui ont été délaissés par l'homme, et voir un petit peu ce que la nature en a fait. Et au-delà donc d'un seul bâtiment, je connaissais, j'avais connaissance, effectivement, de différents lieux dans les Pyrénées, de hameaux, de villages. Et bien, je me suis dit tout simplement, mais voilà, je vais aller un peu plus loin qu'une simple demeure et je vais aller visiter aussi d'autres lieux, mais à l'échelle d'un village. Voilà.
Alors, c'est ça qui fait la caractéristique, c'est que présenter une maison abandonnée, un moulin abandonné, c'est une chose, mais des villages entiers. Moi, j'avoue que j'ai trouvé votre ouvrage passionnant parce que la particularité de celui-ci, c'est de présenter le village, d'agrémenter votre récit de photos prises lors de vos expéditions et d'expliquer, c'est ça qui est d'autant plus intéressant, comment s'y rendre à pied. Donc votre ouvrage, c'est quelque part, c'est comme ça que je le ressentis, c'est un guide très particulier qui invite, plus qu'il n'incite, à découvrir ces villages fantômes. Combien de villages fantômes vous avez décompté avant de décider de retenir ces 15 villages, Gilles Kerloc?
Alors, en France, sur la partie française, il y en a peut-être une dizaine sur les Pyrénées.
Oui.
Par contre, en Espagne, sur l'autre côté de la frontière, ils sont très, très, très nombreux. En fait, il y a eu, au moment de la guerre civile, une évacuation de force de beaucoup, beaucoup de villages, de hameaux. Et sur la chaîne pyrénéenne et au plus, enfin même au niveau du territoire espagnol, il y a énormément de villages qui sont comme ça en ruine et abandonnés. Donc oui, en Espagne, il y en a peut-être, j'ai pas vraiment décompté le nombre de villages sur le versant espagnol, mais il y en a peut-être une trentaine, quarantaine entre l'Atlantique et la Méditerranée.
D'accord. Et alors ce choix, vous l'avez effectué comment? Parce que là, vous dites à peu près une quarantaine de villages. Ce choix de dire, je sélectionne ces 15 villages. Pourquoi avoir sélectionné ces villages-là plutôt que les autres? Qu'est-ce qui a attiré votre œil ou les émotions que vous avez ressenties pour choisir cela plutôt que les autres?
Alors, il y a d'abord l'histoire du lieu. Parce que souvent, un village abandonné porte toujours dans ses murs une histoire. Donc, quand on visite un lieu comme ça, bon, on n'a pas quoi, vraiment, j'ai pas toujours connaissance de l'histoire du lieu. Je travaille après sur l'histoire du lieu en revenant chez moi, à la maison, ou en archive. Donc l'histoire est un premier préalable. Après, il y a le côté esthétique. Quand vous visitez un village en ruine, en fait, sur certains lieux, territoires espagnols, vous avez une architecture qui est particulière. Il y a des choses, en fait, qui m'ont marqué sur les manières dont les maisons ont été construites. Ce qui a été laissé par les habitants, comment la végétation est venue tout réinvestir ou pas, parce qu'il y a certains lieux quand même qui sont complètement désertiques, où la végétation n'est pas revenue. Donc il y a aussi un contexte d'architecture, effectivement, de territoire, de paysage, de couleurs aussi, parce que j'y suis allé dans différentes saisons, et un village, par exemple, sous la neige, a un visage complètement différent. Qu'à d'autres moments de l'année. Donc il y a tout un tas de données en fait qui ont fait que j'ai eu un coup de cœur pour un village ou un autre, et j'ai fait ce choix-là.
D'accord. Alors on va parler, puisque là on est en Bigorre, hein, les studios de présence, donc c'est en Bigorre. Alors juste avant, une question de Diego Arabal. Je le vois lever son petit doigt, comme si on était à l'école, Philippe Subercase.
Sinon, c'était vous couper, ce qui aurait
ah,
été
non,
vraiment
non, ça aurait
dommage.
Été scandaleux, ça. Non,
voilà. Ouais. Moi, j'avais une question pour Gilles. Vous les trouvez par hasard, ces villages, en vous baladant, ou comment vous faites pour repérer des villages abandonnés en préalable? Parce que Philippe vous a demandé comment vous avez sélectionner ceux dont vous parlez dans cet ouvrage, mais au-delà de ça, faut y aller, faut les trouver. Alors, est-ce qu'il y a des moyens de repérer ces villages a priori, ou est-ce que c'est au fil d'une randonnée que vous faites dans tel ou tel endroit que vous tombez sur ces villages?
Alors non, il n'y a pas de hasard en fait dans cette recherche de village. J'ai fait un travail en amont où j'ai recensé sur toute la chaîne pyrénéenne, des lieux potentiellement inhabités. Et donc dans les archives, dans les documents administratifs, dans la presse locale, sur Internet, bien sûr, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et donc, oui, avant tout ça, j'ai fait ce travail de recherche, un petit peu en archives, et je suis allé voir aussi des photos qui existaient sur ces lieux-là. Donc voilà, il y a une sélection avant de partir parcourir le lieu, il y a quand même une sélection avant d'être sur le terrain. Et une fois que j'ai fait ma sélection, ben, je suis allé sur le terrain. C'est-à-dire que je suis allé voir ces lieux-là. Alors parfois, j'ai été déçu. C'est-à-dire que je me suis dit, ben voilà, non, peut-être que ce lieu-là, il a été réhabité. Alors, il y a des lieux qui ont été abandonnés et qui sont revenus à la vie parce que des gens l'ont réinvesti, ont racheté des maisons et ils sont en reconstruction. Donc là, bon, finalement, je suis allé les voir, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur l'image d'un village fantôme. Après,
Vous avez rencontré les gens qui réhabilitent ces maisons pour leur demander pourquoi ils le font, Gilles Kerlock?
oui, tout à fait. C'est ça qui est vraiment aussi passionnant, parce que au-delà de l'esthétique et de la ruine, il y a aussi ce que l'homme en a fait, comment il a abandonné, pourquoi il a abandonné un lieu, et même pourquoi aussi il est revenu. Alors en Espagne notamment, j'ai rencontré des personnes qui étaient des descendants de certains habitants de villages,
D'accord.
qui ont repris ou qui ont racheté la maison familiale et qui ont refait les murs, qui ont remis le toit. Donc ça veut dire que dans certains villages d'une quarantaine, d'une cinquantaine de maisons, il y a une ou deux maisons qui ont été restaurées et qui sont habitées, pas à l'année bien sûr, mais qui sont habitées à certains moments par des gens qui reviennent, voilà, revivre effectivement une histoire familiale.
C'est vraiment, alors moi c'est pour ça qu'on sélectionne votre ouvrage. Alors on précise hein, au moment de cette interview que Vous êtes en sélection pour l'un des prix Binaros. Donc, on rappelle que le prix Binaros sera. Enfin, les prix Binaros seront remis au Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères de Bigorre, donc en octobre. Hein. Nous y serons tous les trois, Philippe Subercase et Diego Arrabal, en direct. Comme chaque année depuis maintenant, donc une petite dizaine d'années. Et puis, ben, on espère que c'est vous qui serez retenu, puisqu'on aura à nouveau l'occasion, dans ce cas-là, Gilles Kerlock, eh ben, de vous interviewer, puisqu'on interviewe automatiquement donc, les quatre lauréats. Alors, moi, je voudrais parler d'un lieu qui est très proche de nous, ici, en Bigorre, qui s'appelle donc, le Courtaou des Escloses, dont vous parlez dans votre livre, donc, qui est un village abandonné que l'on peut voir au départ de Payol, alors qui est un village qui correspond à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu la volonté de la part, effectivement, de la mairie de Campan de réhabiliter une des vieilles maisons. Et sa particularité, c'est de, notamment de trouver des toits en loze. Ce n'est pas des toits en
ardoise.
En ardoise, ouais. Moi, ça m'a énormément surpris quand j'y étais. Donc, ça tombait bien parce que ce jour-là, il faisait très beau. Et il y avait des habitants qui montaient, qui faisaient ce qu'ils appelaient la corvée. C'est-à-dire qu'ils viennent nettoyer, etc., les chemins. Et il y a une réhabilitation aujourd'hui qui continue à être faite. Donc, il y a un refuge dans lequel, effectivement, on peut dormir si jamais. Donc, qui est ouvert hein, à demeure hein, tout le temps. Qui est une vieille maison, en fait, qui a été restaurée. Et c'est en page 47 de votre ouvrage. Et je vais lire effectivement vos mots, les mots que vous utilisez pour parler du Courtaou des Escloses. Donc je le rappelle, randonnée que l'on peut faire en laissant sa voiture en face du camping de Payol. Au cœur de la vallée de Campan, il est possible de découvrir, surplombant le ruisseau La Gaoube, les vestiges d'un village d'estive d'altitude appelé Courtaou des Escloses. Courtaou désigne la cabane et l'espace pastoral. Esclose évoque l'enclos qui délimitait chaque lieu de vie. Abandonné dans les années 1940, ce hameau permettait aux vachers de la vallée d'amener, durant 4 mois entre juin et septembre, leur troupeau à 1350 mètres d'altitude. Le village s'est ainsi constitué dans un emplacement judicieusement choisi en bordure de la Gaoube, avec des éboulis de pierres proches utilisés pour la construction et une exposition face au soleil levant. Aujourd'hui, le village est entretenu et redynamisé par l'association Pierre des Escloses, qui depuis 2012 a entrepris la restauration de cabanes et d'étables avec les matériaux locaux, pierres sèches, loze et bois de résineux. On peut ainsi parcourir sur 430 mètres un canal dérivé de la Gaoube qui file le long de 19 Courtaou. Chaque Courtaou était bâti selon une norme précise. On retrouvait la cabane du vacher qui s'ouvrait devant le canal, lieu de vie lui servant d'abri et de lieu de repos. Dans l'étroitesse de la cabane, le vacher pouvait dormir sur une couche chauffée par une petite cheminée. On trouvait également dans les murs plusieurs niches de rangement et une armoire garde-manger. L'originalité de ces cabanes était de posséder proche de la porte d'entrée un laïté. Le laïté se présentait sous la forme d'une niche confectionnée au niveau du sol et alimentée par l'eau du canal de dérivation. Ce frigo à l'ancienne permettait de conserver le lait dans des bidons à anse appelés badines et la crème prélevée à l'aide de cuillères en bois culliées conservées dans des pots de terre nommés hulots. La crème était destinée à la fabrication du beurre dans la vallée. Alors, ce qui est étonnant dans ce petit village, et vous le situez et vous le décrivez très bien, Gilles Kerlock, dans votre ouvrage 15 villages fantômes pyrénéens, donc publié au Mont Hélios, c'est que vous décrivez les travaux de génie civil, les travaux hydrauliques qui ont été faits pour monter l'eau depuis, je ne sais pas combien il y a de dénivelé avec en bas, quasiment 100 mètres. Pour faire remonter l'eau au niveau du village du Courtaou des Escloses. Et ça, je trouve que c'est admirable, parce qu'au-delà de montrer des villages abandonnés, vous expliquez aussi tous les efforts qu'ont dû faire les hommes, parce que là, on est quand même dans une nature, il faut le dire, qui est quand même assez hostile. Hein. Ce n'est pas une nature dans laquelle l'homme est forcément bien accueilli. Et c'est ça que je trouve très bien dans ces villages fantômes, c'est de montrer comment les hommes vivaient à cette époque, avec notamment les laïtés. Est-ce que ça... C'est un critère que vous avez choisi parce que vous avez le même critère sur tous les autres villages que vous présentez, hein, que ce soit côté catalan-français ou dans l'Aragon espagnol ou en Bigorre ou dans le Pays basque. Est-ce que ça a été une volonté à chaque fois de le mettre, avec notamment pour trouver le village, l'emplacement GPS ?
Oui, oui, exactement. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, c'est la chaîne des Pyrénées, en fait, est multiple visages. Et suivant les endroits, suivant les territoires, suivant les cultures, il y a des modes de construction, des modes de vie qui sont très différents. La seule chose que l'on retrouve, c'est ce côté isolé. Pour le Courtaou des Esclaves, effectivement, c'était rude de vivre là. Alors, c'était un village d'estive, donc c'était un village qui n'était pas habité à l'année. Voilà, il était utilisé pendant une période de l'année. Il y a d'autres villages en Espagne qui sont d'un accès excessivement difficile, où les personnes vivaient à l'année, c'est-à-dire qu'ils vivaient sous la neige, ils vivaient sans route pour amener en fait du matériel, ils faisaient tout à pied ou avec des animaux. Donc effectivement, il y a le côté isolement qui est très important là-dedans, et aussi comment l'homme en fait a réussi à adapter, à apprivoiser en fait un territoire. Pour effectivement ce qu'on évoquait, c'est le cours d'eau de Courtaou qui a été détourné et qui est quand même un travail d'ingénierie hydraulique fabuleux. Donc ça veut dire qu'effectivement l'homme a travaillé pendant des années pour justement que l'eau puisse toucher le pied des cabanes. Mais on s'est aperçu, enfin je me suis aperçu en fait dans d'autres villages, que ce travail d'adaptation au territoire, en fait, au milieu, c'est vraiment quelque chose, c'est une réflexion, rien n'est au hasard en fait quelque part. Trouver l'eau dans certaines vallées, par exemple, c'était très difficile. Dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, certains villages ont été abandonnés parce qu'il n'y avait plus d'eau. Parce que l'eau était très profonde, il fallait faire des puits très profonds, et en période de sécheresse, il n'y avait plus d'eau. Donc il fallait trouver des astuces pour pouvoir justement quand même bénéficier de l'eau jusqu'au moment où c'était plus possible et que les populations sont finalement parties. Donc c'est vraiment une adaptation au milieu. Et je pense qu'aujourd'hui, les populations modernes ne sont plus capables de ça. On est dans un confort aujourd'hui qui n'est plus possible de calquer en fait avec un passé, parce que les gens d'aujourd'hui ne pourraient plus accepter ça, en tout cas, ça c'est sûr.
Et puis il y aurait même la condition physique, parce que quand on voit les travaux qui ont été faits, ça veut dire que leur corps était leur outil de travail. Ça veut dire que là, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, les personnes qui ne sont pas entraînées pourraient faire une demi-journée, et il leur faudrait une semaine pour récupérer une demi-journée. Alors que là, il fallait faire les travaux, parce qu'il y avait forcément des journées de mauvais temps où ils devaient rester protégés, et puis qu'ils travaillaient sur les jours où c'était possible de travailler, sachant que vous l'indiquez très bien. Le Courtaou des Esclaves, par exemple, bon, ce n'était pas le cas des autres villages espagnols, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de neige qui tombait qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que ces villages étaient bloqués une partie de l'année et étaient obligés donc de vivre en autarcie. C'est pas quelque chose avec le confort, comme vous dites aujourd'hui, qu'on serait capable d'arriver effectivement à accepter. Et c'est ça qui est remarquable, je trouve, dans votre ouvrage. C'est que votre ouvrage fait quelque part une mise en perspective entre cette vie qu'il y avait donc dans le passé et cette vie qu'il y a aujourd'hui. En témoigne notamment la couverture. Je trouve que la couverture de votre livre, elle est très belle. C'est ce pan de mur avec cette fenêtre que l'on voit, qui donne sur une vallée. Et on voit que c'est écroulé, mais il ne reste que ça. Et elle est très, très émouvante, cette vue. Et la particularité de votre ouvrage, c'est que quand on a lu les 15 villages fantômes, eh ben on a envie de faire les 15 randos, quoi. Moi, franchement, ça me donne envie d'aller les faire tous, parce que vous donnez vraiment envie au travers des photos. On voit vraiment qu'il y a eu un choix des photos que vous avez faites, alors qu'il y a des photos que vous avez faites vous-même pour donner envie d'aller dans ces villages. Et où c'est très émouvant, c'est cette photo de dos que vous prenez donc d'un habitant qui est en train de refaire une maison. Et on devine l'usure du temps sur cette personne qui se dit et qui donne un sens à refaire ça. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, très justement, c'est je reprends la maison familiale, mes ancêtres ont écrit une histoire et je restaure la maison pour écrire une nouvelle histoire. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans votre ouvrage, au-delà de... C'est pas qu'un aspect touristique, c'est cette volonté à un moment donné de l'homme d'écrire une histoire et de laisser une trace de lui-même. Est-ce que c'est... Alors, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Est-ce que c'est la volonté que vous avez eue en écrivant cet ouvrage?
Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que on peut pas dire une fois qu'un village a été abandonné que la ville a disparu. C'est une certitude. La vie humaine est partie, mais la vie animale est revenue et la vie végétale s'est réappropriée le lieu. Quelque part, en fait, la vie, il y a une continuité de la vie dans ces lieux-là. Les végétaux se sont infiltrés, les toitures se sont effondrées, les arbres ont poussé dans les maisons. Mais quelque part, cette végétation a permis aussi une préservation des lieux. C'est-à-dire que les racines, le lierre a maintenu les murs, a évité effectivement un écroulement définitif. Et comme on évoquait effectivement tout à l'heure le fait que des hommes soient revenus, je suis tombé sur des villages que j'ai pas évoqués dans le livre, qui m'ont beaucoup touché parce que très difficile d'accès. Et je suis tombé en fait sur des gens qui ont décidé de vivre là, mais en toute illégalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont trouvé un lieu complètement isolé qui sont venus avec leur sac à dos, qui sont installés là et qui vivent là sans demander quelque chose à quiconque et qui sont adaptés au lieu, qui utilisaient l'eau du puits sans électricité, qui se chauffent l'hiver avec ce qu'ils pouvaient trouver. Et en fait, je suis allé vers eux et j'ai pu échanger avec eux et je crois que ça a été des rencontres très très fortes pour moi, ça. Parce que on se dit, il y a des gens qui quittent aussi, qui ont besoin d'une forme d'érémitisme et qui ont quitté le monde des hommes, en fait, et qui sont venus vivre dans d'autres villages abandonnés pour refaire une vie seule, en solitaire. Et ça, au-delà de se réapproprier une maison familiale, il y a aussi ça dans les villages du Pyrénées, c'est qu'il y a des lieux qui ont été réinvestis par des gens qui, peut-être, je connais pas leur histoire, mais qui ont quitté les hommes pour aller vers un isolement.
Il y a une photo comme ça, moi, que je trouve très touchante. C'est en page 44 de votre ouvrage, donc Muro de Bellios. Vous avez une photo en page 44 où on voit une cave. Vous mettez ce commentaire, une cave à l'abri de la chaleur, gardant la trace des précédents habitants. Et elle est touchante parce qu'on voit que la cave, effectivement, est abandonnée, mais on imagine bien la vie qu'il y a eu ici, le fait que les habitants, par moments, quand il faisait très très chaud, devaient s'y réfugier. On voit donc une des cloches. Vous avez le petit cimetière qui est accolé à l'église Santa Maria qui révèle la vie d'autrefois, parce qu'un cimetière, ça parle aussi des gens, effectivement, qui ont été là. Il y a une photo des magnifiques carreaux peints ornant donc une cuisine. Il y a l'école du village qui est tout le temps le centre, hein, parce que c'est le début de la vie, hein, dans un village avec les enfants qui y vont. Vous mettez que ça n'est plus qu'un tas de ruines. Et puis vous avez une photo qui donne une vue d'ensemble. Et quand on voit ça, franchement, hein, moi, Muro de Bellios, j'ai qu'une envie là, c'est de prendre la voiture, d'aller de l'autre côté, donc en Aragon, et d'aller le visiter. C'est pour ça que je recommande vraiment la lecture de votre ouvrage, 15 villages fantômes pyrénéens, Gilles Kerlock, publié au Montélios. Puis bon, c'est un commentaire tout personnel. J'espère vraiment que vous allez avoir le prix Binaros. Je ne connais pas les autres livres qui sont en compétition avec le vôtre. Mais voyez, quand Diego Arrabal, que je remercie hein, ici, m'a communiqué ce livre, je me suis dit, bon, ok, allez, c'est encore un livre qui va présenter, les villages, tout, en disant, bon, voilà, pour les visiter, il y a ça. Et puis, en fait, en le lisant, je me suis rendu compte que ça n'a pas du tout été votre choix, que c'était vraiment de dire que ces villages fantômes avaient des choses à nous dire. Et que vous saviez très bien le présenter, au point que quand je l'ai fini le vendredi, le samedi matin, j'étais au Courtaou des Escloses. C'est vous dire la motivation, effectivement, que ça a entraîné. Il y a une question de Diego Arrabal.
Non, ce n'était pas une question, c'est simplement de dire que si je vous ai passé ce livre, parce que moi j'avais rencontré Gilles à un salon et que nous avions discuté un petit peu, j'avais trouvé que ce livre pouvait vous convenir, vous qui êtes un randonneur aguerri. Et je trouvais que ça, c'était quelque chose qui pouvait accrocher votre attention et que vous ne manqueriez pas de vouloir parler avec l'auteur.
Alors, c'est vrai. Et puis, alors, c'est vrai pour le randonneur aguerri. Mais surtout, ce que j'aime dans les randonnées, c'est effectivement J'aime beaucoup, moi, tomber sur des villages. Ça m'est arrivé, notamment en faisant le GR6 dans le Périgord, là, avec un pote. Et on est tombé sur un village abandonné avec un pan d'église qui n'est signalé nulle part. Et au départ, de loin, comme il y avait, on pensait que c'était la pile d'un pont. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que fout la pile d'un pont au milieu de la forêt, quoi. Et en fait, on a découvert que c'était un pan d'église avec toute la vie qu'il y avait. Et c'est ça, je trouve, que vous avez réussi, Gilles Kerlock, dans cet ouvrage. Il est pas épais, hein, mais...
Mais il est dense.
Il est dense.
Au sens,
voilà. Et il y a un message qui est communiqué. Ouais. Il y a un message. Il y a une vraie philosophie. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, Gilles Kerlock. Encore une fois, merci de l'avoir fait. Vous avez un autre projet en cours ou pas?
Alors, oui, il y a d'autres livres qui vont bientôt sortir. Comme je suis assez passionné par la nature, là, j'ai une trilogie de livres qui va sortir sur les arbres, sur le sujet des arbres.
Ah, ben ça va être donc, passionnant. Mais on reviendra vous voilà, voir en septembre, moi.
Sur les arbres donc des Pyrénées, bien sûr, et sur les arbres des Landes, du Pays Basque et du Béarn. Donc voilà, c'est une visite des arbres et encore une fois, comme les ruines, un arbre a une histoire à raconter.
Tout à fait.
Alors ça... je suis allé écouter les arbres, tout simplement.
Merci beaucoup, Gilles Kerlock, de nous avoir accompagnés donc d'un jour à livrer un auteur. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à très bientôt. Merci encore.
Merci beaucoup. Merci. Bonne journée aussi.
Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.